BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h passé de 58 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Allnest, Françoise Benamou, présidente du Cercle des économistes, et Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra. On va parler de ce rapport ensemble, les amis, de la Cour des comptes. Alors, qui dit rarement du bien quand la Cour des comptes se penche sur un sujet, c'est en général pour l'étrier. C'est un peu le mot qu'on utilise en presse écrite, parfois de manière abusive d'ailleurs, parce qu'il arrive à la Cour de dire des bonnes choses aussi, mais plus rarement. Cette fois-ci, c'est donc sur la prime d'activité, une prime d'activité qui a beau avoir été pensée pour encourager le travail des Français aux faibles ressources, aux bas salaires, la Cour nous dit, Françoise, que ses effets sur l'emploi ne sont pas démontrés.
Oui.
C'est quand même bien dommage, parce que ça touche 4,5 millions de personnes.
10 milliards.
Et
10,7 milliards.
Et ça coûte un petit 10 milliards d'euros.
Oui.
Voilà.
Alors, ce n'est pas toute la prime qui est mise en question, mais c'est vrai qu'il y a un chiffre qui m'a frappé, moi, dans ce rapport. C'est que 14% des personnes interrogées ont dit qu'elles étaient retournées dans l'emploi sans prendre en compte, sans même savoir d'ailleurs qu'elle existe, probablement, la prime d'activité. Donc, il y a une question. Alors, 14%, ce n'est pas rien, hein, mais enfin, quand même, il y a une question sur ces 10,7 milliards. Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Est-ce qu'ils sont bien fléchés? Est-ce qu'il ne faut pas recentrer pour limiter le nombre d'allocataires sur ceux sur lesquels ce serait efficace? Et puis, quand il y a comme ça une prime, il faut que les gens qu'on vise et pour lesquels on vise quelque chose, parce que c'est une incitation au retour à l'emploi pour les gens qui ont des revenus modestes et qui seraient tentés de rester dans un système d'aide publique, etc. Est-ce que ça marche? Et bien pour que ça marche, il faut d'abord qu'ils soient au courant du fait que ça existe aussi.
Et oui.
Donc voilà, il y a tous ces éléments-là, donc ce n'est pas un rejet total, c'est un recentrage qu'elle propose.
Bon, un peu comme les aides à l'apprentissage.
Exactement.
En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous constatez un effet? Alors j'imagine que dans l'industrie de la défense, les salaires sont plutôt des salaires élevés. On n'est pas forcément autour du SMIC, mais quelle expérience vous avez eue, vous, de la prime d'activité, si vous en avez eu une auprès de salariés?
Alors, chez Ametra, on n'a pas une expérience directe de la prime de retour à l'emploi, mais moi, retourner à l'emploi, je trouve ça très bien, j'y suis philosophiquement favorable. En revanche, il faut bien expliquer que ces 10,7 milliards, on les prend quelque part d'un budget autre. Donc, in fine, ça alourdit aussi, ça entache notre compétitivité. Or, dans l'industrie, on est face à une compétitivité mondiale. Chez Ametra, quand on remet un prix pour un projet de développement d'un nouveau système à Thalès, on est en concurrence contre des sociétés indiennes, mexicaines, etc. Et si notre capacité à, si notre coût de l'emploi est grévé de toutes sortes d'aides qui sont en plus partiellement efficaces seulement, eh bien, ce sont des contrats que nous ne gagnons pas et donc des emplois qui partent à l'étranger.
Ouais. Patrick, bon, c'est une aide au retour à l'emploi plus qu'une dépense de non-activité.
Oui,
c'est-à-dire que ça va dans le bon
pour
sens.
Pour dire, j'accepte un emploi qui est un peu sous-payé, donc je suis complété. Mais pour rebondir sur ce que vous évoquez, il y a une solution. Hein. Vous réduisez les cotisations sociales payées par les entreprises qui viennent financer la CAF, qui finance la prime d'activité. Et croyez-moi, les entreprises seront ravies d'augmenter les salaires et de faire en sorte que, pour un coût d'ailleurs beaucoup moindre, et de faire en sorte qu'elles soient attractives et que les personnes qui cherchent un emploi reviennent à l'emploi. Hein. Donc on est dans un système, et sans avoir lu en détail le rapport de la Cour des comptes, on oublie quand même un point qu'ils ont très largement soulevé, qui est la gestion, la qualité de la gestion, le nombre
encore
d'erreurs.
Encore et toujours.
Si je ne dis pas de bêtises, je crois que la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la CAF au cours des deux dernières années.
Absolument.
À l'intérieur de cela, il y a la gestion de la prime d'activité. On revient sur le sujet de l'efficacité et de l'efficience, pardon, de la dépense publique. Et le point qui révolte quand on lit, et encore une fois, j'ai pas lu en détail, mais quand on lit des quelques extraits, etc., c'est oui, on a compris que ça coûtait tant, etc., mais c'est le fait que c'est truffé d'erreurs, et qu'il y a des erreurs partout, dans un monde qui est hyper digitalisé, où on peut arriver globalement, c'est compliqué, mais assez facilisé les situations personnelles, puisqu'il faut faire une déclaration de situation personnelle pour valider que vous êtes bien dans le niveau de rémunération qui vous donne droit à ces éléments-là. Une fois de plus, mais combien de fois sur ce plateau avons-nous abordé sur des sujets totalement différents cette vraie question ? Et cette vraie question qui amène souvent à dire « Oh, c'est peut-être inutile, c'est peut-être pas très utile, c'est juste que c'est utile, mais c'est mal géré. »
Françoise Benhamou.
Mais que les aides publiques doivent être évaluées pour vérifier si elles sont efficaces, ça c'est une évidence.
Évidemment.
Après, transférer, si vous voulez, les aides sociales vers l'entreprise de manière systématique en baisse des cotisations, ça n'est pas nécessairement la même efficacité qui est souhaitée, qui est recherchée. Donc là, c'est une question d'évaluation des politiques publiques.
Oui.
Moi, je crois que c'est surtout ça le problème.
Ce qui n'est pas toujours très simple.
Voilà, c'est pas toujours
simple. La Cour des comptes est là pour
ça.
Et
c'est vrai qu'on est dans la contradiction entre le politique et l'économique, puisque Sébastien Lecornu a légèrement augmenté, si je ne me trompe, cette prime d'activité.
Elle a augmenté dans l'année
tout à fait récemment. Voilà. Donc
budget,
là, cette réflexion, il aurait fallu l'inverser, c'est-à-dire commencer à regarder comment on rationalise et comment on la rend plus efficace, la prime d'activité, et ensuite voir si on augmente, si on baisse, si on transfère, etc.
Non, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que la Cour des comptes sorte maintenant ce rapport, alors qu'on vient de décider d'une augmentation de 50 euros, je crois, de la prime d'activité.
C'est pas le même tempo.
J'étais provocateur pour, à dessein dans ce que j'évoquais tout à l'heure, mais quand même, réfléchissons sur le fond. La prime d'activité est là pour compenser des salaires
ben
qui
oui.
sont trop bas. Et pourquoi sont-ils trop bas ? C'est parce que par rapport au coût réel du salaire dans l'entreprise, eh bien, ce qui est versé aux salariés est très très loin de ce que ça coûte à l'entreprise. Donc, il faut qu'on
ça arrive. Ça va être le sujet majeur de la présidentielle, rapprocher le brut du net.
Bien sûr, la réponse, elle n'est jamais dans tout à droite, tout à gauche, si je peux employer cette expression. Mais clairement, il y a du tuning et
oui.
Et si on pouvait, sur bien des sujets, vous avez parlé du budget de la justice tout à l'heure, reparler d'efficacité et de priorité dans les fonds qui sont affectés avant de parler de la réduction des 10 fonds.
Oui, ou de l'augmentation, parce que le grand sujet sur la justice, c'est faut-il plus de moyens ? Or, ce qu'on constate, c'est que derrière la défense, le budget de la justice est celui qui a le plus progressé depuis 2017, hein, près de 60% d'augmentation depuis 2017. On arrive à peu près dans la moyenne européenne en termes de dépenses par habitant. On manque de procureurs et de juges encore. Mais ce que disent les procureurs, on en a beaucoup parlé ce matin dans la matinale de BFM Business, c'est que à chaque sujet, ça devient une priorité nationale. À chaque crise médiatique, violence familiale, terrorisme, narcotrafic, des circulaires du ministère de la Justice sont déployés pour dire aux juges tel sujet est la priorité. Et quand tout est prioritaire, ce que disent les magistrats, bah plus rien ne l'est vraiment.
On n'a jamais eu autant besoin de priorité, me semble-t-il, puisqu'on est dans une situation où les finances publiques sont limitées, et en même temps, la situation politique fait que les priorités vont dans tous les sens, et que le quoi qu'il en coûte, il en reste quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser dans notre pays.
Patrick,
oui. Et sur ce que vous évoquiez, pardonnez-moi là, parce que je ne pouvais pas ne pas. Si cette source est de qualité, c'est la source de la Commission européenne, budget de la justice. On est un petit peu en dessous. Il a beaucoup augmenté. On est un petit peu en dessous de la médiane européenne.
Oui.
Mais en nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants, on est à 11 alors que la médiane est à 18.
Oui. Oui.
Et en nombre de procureurs, on est à 3,2 alors que la médiane est à 11. L'argent, là, il est où ? Il est pourquoi ? Et le sujet, une fois de plus, de gestion. Alors que, encore une fois, vous avez eu raison de souligner, ça a augmenté de façon considérable au cours des 6 à 8 dernières années. Là encore, on est dans des sujets de priorité.
Et bon, l'organisation des politiques publiques.
C'est le même sujet, on l'avait évoqué à plusieurs reprises au moment du Covid. Dépenses de santé France-Allemagne, par rapport au PIB à peu près équivalent, grosse différence, entre 8 et 10% de plus de non-soignants dans le budget de la santé français.
Bon, on va revenir sur les salaires, mais c'est quand même absolument passionnant. Ça pose la question du périmètre de l'action publique et de l'État, hein, qui peut-être se dilue au fur et à mesure des années.
De l'action au jour le jour, pas du périmètre, sur, de l'action au jour le jour.
Et oui, sur les fonctions de base. Je voulais qu'on vienne, Anne-Charlotte, qu'on continue sur la question des bas salaires. Vous savez qu'il y a eu toute cette polémique sur le gel des allègements de charges annoncés, confirmés par Bercy suite à la hausse du SMIC. Des allègements de charges qui explosent avec l'inflation, puisqu'elles sont indexées aussi sur le SMIC, plus 30 milliards, si je ne dis pas de bêtises, depuis 5 ou 6 ans. Est-ce que ça vous impacte? Le MEDEF est hors de lui, le patronat de manière générale, en disant c'est 2 milliards de hausse d'impôts en plus sur les entreprises. Est-ce que vous, ça vous impacte dans votre politique d'emploi, ce gel des allègements de charges, qui vont de 1 à 3 SMIC, je le rappelle?
Chez Ametra, nous avons maintenant une concentration sur des emplois plutôt de type technicien et ingénieur. Donc il n'y a personne dans le groupe Ametra qui soit au SMIC ou proche du SMIC. Mais tous les sujets de rémunération, de gel des allègements, d'alourdissement des charges, touchent
de
toutes les entreprises.
De tuyauterie fiscale ou sociale.
Voilà, de tuyauterie fiscale ou sociale, comme vous dites, complexe et coûteuse, tous ces sujets touchent l'ensemble des entreprises de France. Parce que finalement, il y a un tassement. Lorsque le SMIC monte ou que les allègements baissent sur le SMIC, il y a un alourdissement du coût du travail.
Et oui.
Qui va coûter davantage lorsqu'on va, par exemple, passer commande. Je disais, nous avons essentiellement des ingénieurs chez Ametra, nous concevons des systèmes innovants, mais nous les faisons fabriquer dans notre supply chain, chez nos fournisseurs. Donc lorsque nous rendons un prix à un client, c'est un prix qui intègre le coût de nos ingénieurs et le coût de fabrication de nos fournisseurs qui, eux, ont des salariés qui sont proches du SMIC. Donc évidemment, il y a un impact sur la compétitivité globale des entreprises, notamment industrielles, pour le secteur que je connais.
Et puis un effet tassement des salaires, Françoise aussi.
Oui,
non,
les salaires,
la prime d'activité
les salaires sont
concourt
faibles,
à ça aussi.
Et il y a toujours des effets de seuil sur ces allègements de charges qui fait que du coup, on les augmente, Et donc là, il y a une réflexion, me semble-t-il, d'ensemble qui doit être faite au niveau des entreprises et au niveau macroéconomique aussi, sur le partage de la valeur, tout simplement, et la part des salaires. Et c'est vrai que les salaires, ensuite, c'est la consommation.
Est-ce que ça bouge en France, ça, beaucoup, la part des salaires dans la valeur ajoutée?
Non.
Parce qu'il y a un débat, Oxfam a publié cette semaine un rapport sur les 100 plus grands groupes européens, en disant qu'ils nourrissaient les inégalités parce que 70% du résultat des 100 premiers groupes européens partaient en dividendes. Alors, on l'a décrypté ici sur l'antenne de BFM Business en disant que, évidemment, si on se concentre sur le résultat net, groupes, c'est normal que ce ne soit que les dividendes, mais que si on prend l'ensemble de la valeur ajoutée, les salariés sont de très loin les premiers bénéficiaires, puisque c'est 60% de la valeur ajoutée. Mais est-ce que vous soulevez ce débat-là, Françoise, pour dire que la répartition capital-travail n'est peut-être pas assez juste?
Il y a toujours ce décrochage entre la réflexion macro et puis ensuite ce qui se passe dans les différents types d'entreprises et où là, on est dans le concret et où la question du partage de la valeur va se poser de manière différente. C'est quand on est au niveau macro, c'est vrai qu'on voit notamment dans les grandes entreprises, effectivement, elles vont bien dans l'ensemble pour l'instant. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a un avantage au capital, si je puis dire, mais c'est vrai qu'en même temps, les salaires sont faibles et c'est un sujet récurrent dans notre pays.
Bon. Sujet de la prospérité globale. J'ai Alternance, merci Alternance, qui nous fait une petite correction sur les comptes. Alors, les comptes de la Sécu, mais non, on parle bien des allocations familiales. Ces comptes ont été certifiés cette année pour la première fois depuis 6 ans.
Voilà, c'est les dernières années.
Bon. Mais,
merci pour la précision.
Voilà.
C'était les dernières années.
Merci effectivement de cette précision. Mais je veux qu'on continue sur ce débat.
Le sujet de du partage de la valeur, il est très largement partagé par les dirigeants d'entreprise. Et d'ailleurs, à noter que ce qui a été intégré dans la loi est venu d'un accord entre les partenaires sociaux de toutes origines. Et quand on parle de montant, alors peut-être que on va me redire que c'est
on
pas
fait
tout
du fact-checking en direct avec les
mais voilà fact-checking
experts,
c'est en gros de l'ordre de 26 à 27 milliards participation et intéressement, et ça représente 8 à 9 millions de salariés.
Et
ça
oui.
doit être un peu plus de 50%, même beaucoup plus que 50%
des salariés. Les actionnaires ne sont pas tous sur des yachts à fumer des gros cigares.
Donc,
c'est aussi des salariés,
voilà,
des retraités, des épargnants.
On est dans un schéma où, quand on parle des dizaines de milliards de dividendes, on a l'impression que il n'y a rien pour les salariés, sauf que les dividendes, comme vous l'avez très bien mis en évidence, ils viennent après le fait que les salariés, évidemment, reçoivent leur salaire.
C'est le bas du compte des résultats.
Mais, et aussi droit à un partage de la valeur. Donc voilà, il faut remettre les sommes en parallèle et en rappelant cette part dans la valeur ajoutée, parce que encore une fois, une entreprise, elle marche parce qu'il y a des gens qui financent et parce qu'il y a des gens qui travaillent, et d'abord parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc ce travail, il est rémunéré d'abord, avant tout le monde, y compris avec l'intéressement à la participation, et puis quand il y a un résultat, on rémunère l'apport du capital.
Oui. Et puis les entreprises, pour bien travailler, il faut qu'on leur fiche la paix aussi et qu'on allège un peu les contraintes, parfois, pour davantage de production, de rentabilité. Bref, laisser faire les entreprises, c'est évidemment le mot d'ordre sur BFM Business. Et bien justement, on a une bonne nouvelle et on va terminer sur cette bonne nouvelle l'émission. Ce sera le dernier débat aujourd'hui, c'est la présentation du paquet Omnibus 4 par la Commission européenne. Je ne sais pas si vous aviez vu passer les trois premiers, mais elle concerne les entreprises comme Ametran, Charlotte Fredenucci, puisque ça concerne les PME et les ETI. Vous êtes juste entre les deux. Est-ce que vous avez pu regarder ce qu'il contenait, ce paquet omnibus de simplification présenté cette semaine par la Commission?
Oui, j'ai regardé de loin, mais tout ce qui relève de la simplification et de l'allègement des contraintes va dans le bon sens, évidemment. Alors, qu'on soit très clair, l'objectif n'est pas de laisser les entreprises se comporter comme des cow-boys dans le Far West d'il y a 200 ans. Chez Ametra, on a une politique ESG ambitieuse, on est certifié EcoVadis, on mène un certain nombre d'actions qui pourraient, dans un certain cas, nous être imposées par des réglementations bruxelloises. Donc, l'objectif n'est pas de ne rien faire en matière de ESG, de compliance, de décarbonation, etc. Mais l'objectif est de laisser les entreprises se débrouiller seules et mener à bien des actions qui soient différenciantes. Si l'Europe nous impose à tous un bilan carbone, le bilan carbone que nous avons réalisé chez Ametra n'est plus un engagement ESG, mais ça devient simplement un respect de la réglementation.
Oui,
je trouve ça dommage. Donc oui, j'ai regardé le package Omnibus 4. J'espère qu'il continuera à alléger nos contraintes et qu'il nous permettra d'être un peu plus libres.
Françoise.
Oui, alors c'est une ancienne. Hein. C'est à chaque fois, on revient sur la question de cette baisse des normes et des réglementations. Et à juste titre, elles sont lourdes, elles sont complexes dans tout domaine. Moi, je l'ai vécu dans l'université.
C'est une ancienne récente, tout de même,
voilà.
Au niveau européen.
Bruxelles
avait plutôt tendance à
alors,
surréglementer.
Alors, c'est depuis février 2025, ces omnibus, là, si je ne sais pas quels omnibus, qui ont un drôle de nom d'ailleurs, qui sont des trains de mesure, là, ont été adoptés. Alors, ça touche la durabilité, ça touche la politique agricole, ça touche les produits chimiques, et il s'agit de simplifier les exigences, de reporter les dates d'application de certaines mesures réglementaires un peu complexes, d'avoir un traitement allégé pour les PME et les ETI. Donc c'est très intéressant tout ça,
promet,
avec
commission.
Quand même un petit bémol, attention, il ne faudrait pas abandonner, si je puis dire, les questions d'économie verte,
qu'on détricote aussi.
Voilà, et on a tendance à les détricoter au prétexte de cette question de réglementation.
Patrick.
Alors, simplifier, ça n'est pas déréglementer. On confond toujours le fait que réglementer, c'est rendre complexe la vie des entreprises. Et vous l'avez très bien souligné, on pourrait très bien, et c'est le rôle de l'État et de la Commission européenne de donner l'impulsion, c'est-à-dire avoir une loi qui dise les entreprises doivent déclarer leurs objectifs de décarbonation et après laisser les entreprises, et notamment les fédérations, parce que l'empreinte carbone, elle est différente selon les métiers, les laisser, comme on l'a fait pour le partage de la valeur, les laisser établir les bons dispositifs. Donc, vraiment faire en sorte qu'on allège, mais le but, on simplifie. Le but, c'est pas de déréglementer. Tous ces paquets omnibus que vous avez parfaitement soulignés, du 1 au 4, pour moi, ils révèlent quand même un vrai changement de paradigme. C'est que peut-être que, enfin, la Commission européenne comprend que dans sa réglementation, la compétitivité doit devenir un élément majeur, plutôt que l'efficacité. On l'a vu au moment du sujet Mercosur, ce sujet de la concurrence réglementaire est un truc qui est terrible. C'est comme dans une classe, si il y a des bons et bonnes élèves qui respectent les règles, etc., puis qu'à côté, il y en a qui trichent un peu, qui arrivent à un niveau supérieur à celui qui a bien respecté. Et donc, ça,
c'est ce qu'on appelle le level playing field.
Dernier sujet, si les omnibus ne s'accompagnent pas d'un robinet de réglementations nouvelles qui continuent à couler, on sera dans un bon chemin.
Françoise.
Oui, on pense au rapport Draghi, hein, qui montre extrêmement bien à quel point il y a un déficit de compétitivité quand on compare l'Europe prise dans son ensemble aux États-Unis, par exemple, hein, qui est de l'ordre de 20%. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, est-ce que Omnibus répond un peu à cela ? Sans doute un petit peu, mais ça n'est pas que cela. Hein. Mmh. Il y a un problème de compétences, etc., d'organisation, etc.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ces directives, pourquoi pas ? Avec ce bémol, moi j'insiste beaucoup quand même sur le fait qu'il faut faire très attention à tout ce qui est économie décarbonée, etc. D'autant plus qu'on en aura besoin avec ce qui se passe, pour y revenir un instant, au Moyen-Orient. C'est vrai qu'on va repenser, hein, notre politique énergétique et il y aura sans doute des choix à faire de ce point de vue-là.
Oui. Stéphane Séjourné s'est félicité, hein, dans un tweet sur X.
Oui.
Vous nous demandez de simplifier les normes européennes. Nous l'avons fait. Alors effectivement, vous avez un allègement sur le RGPD, sur le règlement prospectus, sur le règlement batterie. Alors, on ne va pas tous les citer. Il y en a une kyrielle, on pourrait y passer l'émission. Il y a la simplification. Il y a aussi la question de la souveraineté qui vraiment est en train d'émerger sous les coups de butoir, notamment de Donald Trump d'un côté sur le numérique, des surcapacités... surcapacité chinoise de l'autre. Il y a des textes intéressants qui sont sortis aussi, hein, la semaine dernière sur la souveraineté numérique. Il y a quelques semaines, l'accélérateur industriel qui promeut la préférence européenne. Est-ce que ces choses-là impactent aujourd'hui ou vous pensez vont impacter le business en Europe, Anne-Charlotte Fredenucci?
Oui, certainement, à condition que ces déclarations soient suivies des faits.
Mais voilà, c'est est-ce qu'on se paye de mots ? Enfin, ma question, plus simplement, est-ce qu'on se paye de mots ou est-ce qu'on avance quand même qu'à un cas ?
Alors, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si les déclarations d'aujourd'hui se traduiront en faits demain et notamment en investissements industriels, puisque c'est ça la vraie question. On parle de souveraineté, on veut se doter de souveraineté, mais est-ce que demain, concrètement, on va investir dans des systèmes de défense souverains, des systèmes numériques de défense souverains ? Est-ce qu'on va donner aux grandes entreprises qui elles-mêmes passeront des commandes à la BITD et ainsi de suite, et notamment on verra arriver des commandes chez Ametra, est-ce qu'on va vraiment se donner les moyens ? C'est ça la question, et là, je n'ai pas de réponse.
Est-ce qu'il existe une préférence européenne dans le secteur de l'armement aujourd'hui, comme on en discute dans l'automobile, hein, notamment où 70% des pièces devraient être made in Europe dans l'assemblage ? Est-ce que c'est des choses qui existent dans le secteur de l'armement où tout est ouvert ?
Alors, on a vu quand même de nombreux contre-exemples. On a vu la Pologne commander des avions américains. On a vu de nombreux cas de commandes extra-européennes alors qu'il existait en Europe des solutions qui auraient pu répondre.
Oui. Le Rafale, notamment.
On achète beaucoup
qui auraient pu répondre à ces problématiques. Et ça n'est pas anodin, ces choix de système américain, parce que d'abord, ça sous-entend que l'Europe n'aurait pas pu livrer ces systèmes alors qu'ils existent réellement, ces systèmes de défense, encore une fois, et toute la chaîne d'investissement que ça aurait pu générer jusqu'à des emplois chez Ametra, ramener à mon cas concret, tout ça ne s'est pas produit, ces investissements, cet argent a été injecté aux États-Unis à la place, c'est quand même dommage.
Patrick, je voyais réagir sur l'F-35, évidemment, on pense tous à ça.
Que, oui, l'achat de F-35, alors il est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier ce sujet de l'OTAN, qui impose aux armées européennes et aux armées américaines de coopérer, évidemment avec une puissance intellectuelle, technologique plutôt des États-Unis qui est importante. Mais je voudrais revenir sur le sujet Omnibus quand même. Il y a des petites choses qui sont sympathiques, notamment l'Omnibus 4 casse, comme quoi on peut faire simple, casse un effet de seuil qui est la taille de l'entreprise.
Oui.
Aujourd'hui, quand une PME, alors je fais attention au fast-checking, je ne vais plus citer les chiffres, mais quand une PME arrive au seuil ETI, ça y est, elle est considérée comme quasiment une multinationale, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes obligations qu'une entreprise...
Là, c'était 250 salariés, effectivement.
Voilà.
On se heurte à un mur de réglementation de charges normatives.
Voilà, il y a création d'une catégorie, une troisième catégorie, il y a PME, il y a grand groupe et il y a small
mid-cap. Et on repousse la limite à 1000 salariés maintenant.
Et donc ça, je pense que ça devrait... Voilà. Je ne sais plus dans quel axe vous êtes. Et puis, quand on voit aussi dans Omnibus 4... Il y a une mesure de simplification qui est que on a compris qu'il y avait beaucoup de formulaires papier qu'on pouvait digitaliser.
Oui.
On tombe de notre chaise.
Oui, ça fait peur.
On tombe de notre chaise. Oui. Ça pose une vraie question. Alors, oui. Tant mieux, ça arrive. Donc, il ne faut pas critiquer, etc. Tant mieux, ça arrive. Mais, oh Dieu, que c'est long.
C'est un vrai sujet, ces franchissements de seuil. Anne-Charlotte Denucci.
Alors, c'est un vrai sujet, franchissement de seuil. Je vais juste rebondir sur la question des formulaires papier.
Mmh. Oui.
Je vous confirme que chez Ametra, on a une assistante qui a un cerveau bien fait, qui pourrait faire vraiment autre chose, qui traite plusieurs jours par mois des papiers qui arrivent, qui sont des enquêtes diverses et variées, qu'on doit renseigner. Et ça, c'est du temps réel, c'est de l'argent réel qui est investi par Ametra dans ces réponses dont on ne sait pas trop à quoi elles servent. Mais pour revenir à la question du franchissement des seuils, Raphaël, oui, c'est extrêmement frustrant dans une petite ETI comme Ametra, 450 collaborateurs, de penser qu'à partir de 250, absolument, et tant mieux, de penser qu'à partir de 250 collaborateurs, ce qui ne fait pas une multinationale quand même, on est considéré au même titre que des sociétés qui comptent plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de salariés en matière de déclaration réglementaire, en matière d'aide qu'on a le droit ou non de toucher, etc. Donc j'accueille très favorablement cette information.
Nous l'accueillons
très favorablement cette information.
Non, mais nouvelle, il faut savoir s'en féliciter aussi.
Si elle est vraie, mais je pense que celle-ci, elle est vraie.
Oui,
encore une fois,
c'est très intéressant, voilà. Parce qu'effectivement, il arrive qu'une mesure supplémentaire soit intéressante, quelquefois. Voilà, on ajoute une couche, en quelque sorte, mais cette couche-là, elle est productive d'efficacité.
Sur la question de la souveraineté quand même européenne, votre avis, Françoise Benhamou, est-ce que vous pensez qu'on est enfin en train de se prendre par la main en européen face au coup de boutoir à la fois des États-Unis d'un côté et face aux surcapacités chinoises qui se déversent aujourd'hui encore de manière assez tranquille sur le vieux continent?
Cette évidence, on l'a tous en tête et je crois évidemment les politiques et les responsables avant tout. Après, la mettre en action, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le voit effectivement dans le domaine de la défense, où on continue en Europe à acheter énormément aux États-Unis avec les dépendances qui s'en suivent. Donc oui, dans les têtes, je dirais, mais il faut que ça aille très vite maintenant. Ouais. Et cette vitesse, on ne l'a pas.
Bon, il faut un leadership peut-être politique aussi.
Exactement. Alors, nous manque beaucoup ce qu'on appelle, de manière un peu cliché, le couple franco-allemand. Ça
oui,
manque.
C'est une expression qui n'existe qu'en français d'ailleurs, pas en allemand.
Voilà,
Je le répète assez régulièrement. Est-ce que la présidentielle, Patrick, va être l'occasion de relancer tout ça? On voit Emmanuel Macron en fin de course, évidemment, le chancelier Merz pas au mieux de sa forme, et les chantiers franco-allemands type SCAF qui n'aboutissent pas. C'est très compliqué en ce moment.
Il n'y a pas de boule de cristal. Je veux pas être pessimiste parce que c'est pas le tempérament d'un dirigeant d'entreprise, mais je ne évidemment que la stabilité des pouvoirs politiques dans chacun des pays favorise une plus grande cohésion, mais j'ai le sentiment que ça va au-delà. Que évidemment les interférences des échéances électorales vont avoir un impact, mais que cela va au-delà. Il y a une réflexion de fond, profonde, sur ce que nous voulons faire. C'est est-ce qu'on veut construire une zone qui a du sens, et notamment sur le plan souveraineté, ou est-ce que en permanence on continue à défendre ses propres intérêts,
avec des enjeux qui sont la montée des nationalismes en plus. Oui, Anne-Charlotte.
La question politique que vous soulevez, moi, me fait penser à un sujet, c'est le désalignement du temps politique et du temps économique. Et c'est encore plus vrai quand un gouvernement est fragilisé, effectivement.
Et
tout
oui.
le monde regarde en France ce qui se passera au-delà de l'élection présidentielle dans un an, et ça signifie que dans l'année qui va venir, la
rien
parole des politiques a une valeur extrêmement limitée. Or,
et
nous,
oui.
industriels, chez Ametra par exemple, quand on investit pour 5 ans, pour 10 ans, on fait des choix économiques aujourd'hui qui vont engager nos entreprises pour une durée très supérieure à celle du temps politique. Et aujourd'hui, le désalignement est quand même particulièrement criant.
Et croît, puisqu'en plus, le temps de l'économie accélère terriblement, notamment avec les nouvelles technologies. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, Françoise Benhamou, présidente du Cercle des économistes, et Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Olnest, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.